Chapitre 12e. Je crois que nous ne serions jamais partis si un événement inattendu ne nous avait pas tous révoltés. Dans le groupe que nous formions, la disparité n'était pas si grande qu'on pourrait le croire. Il n'était composé au fond que de deux catégories d'hommes. D'une part, des ouvriers ou des employés de Paris, plus exactement de la région parisienne, car les Parisiens par mois n'étaient pas nés à Paris, et des cultivateurs du recrutement d'Angers. J'en étais toujours à faire ma petite propagande individuelle lorsqu'un de ces cultivateurs, Gématon, se fit porter malade. Ici, il me faut ouvrir une courte parenthèse. Notre villa cantonnement, la villa de la misère, comme disait Momo, était située à 3 kilomètres de la ville. Le major nous visitait 2 fois par semaine. Si nous tombions malades entre-temps, nous attendions, à moins que ce ne fût vraiment grave, auquel cas une sentinelle nous conduisait à l'hôpital de la ville. D'ordinaire, ce déplacement était bien accueilli par les gardiens, pour qui il était une distraction. Ce jour-là, pour une raison que j'ignore, les Allemands s'imaginèrent que Gématon se moquait d'eux. Il faut dire que Gématon était un fort et beau gaillard, et qu'il était difficile qu'il eût, du jour au lendemain, l'air mourant. Les sentinelles refusèrent de le conduire à l'hôpital. Elles lui refusèrent même la permission de rester couché et l'obligèrent à se joindre à nous. Arrivé sur le chantier, Gématon dut s'asseoir. D'habitude, les Allemands, en présence de situations semblables, affectaient un genre très humain. Le genre que quand on ne ment pas, on peut compter sur eux. Gématon était un honnête garçon. Quoiqu'il tremblât de fièvre, il voulut travailler. Il croyait sincèrement qu'il n'avait rien. Je dois dire que lorsque j'eus ma pleurésie, j'avais été comme lui. Gématon tint à travailler. Pendant plus d'une heure, il frappa sur des pieux d'acier pour les enfoncer en terre. Puis il s'évanouit. Pourquoi, je ne saurais le dire, mais les sentinelles prirent la chose très mal. Peut-être que la veille, dans une autre partie du chantier, un prisonnier avait feint de s'évanouir, et les sentinelles s'imaginaient-elles que Gématon leur jouait la même comédie. L'une d'elles entra dans une violente colère. Elle se mit à injurier le malade, à le menacer de son fusil, à le frapper du pied. Comme Gématon ne bougeait pas, elle le fit porter dans une cahute de genêt. Nous étions tous remplis d'horreur, d'autant plus que nous savions que Gématon était vraiment malade. C'était dans ces moments, fort rares heureusement, que nous comprenions le tragique de notre condition. Le reste du temps, la vie s'écoulait simplement misérable et monotone. Dès que notre camarade fut étendu dans la cahute, les sentinelles nous ordonnèrent sèchement de reprendre le travail. Moi, qui parlais l'allemand, je leur dis qu'il fallait être aveugle pour ne pas voir que Gématon avait une attaque. Elles firent mine de me mettre en joue. À la pause de midi, nous ne pûmes nous approcher de la cahute. Le soir, quand on alla chercher le malade, il était glacé et il délirait. Les sentinelles comprirent alors leur erreur, mais ne voulurent pas le reconnaître. Elles nous maltraitèrent davantage. Nous avions trop tendance, selon elles, à oublier que nous étions des prisonniers. Elles en avaient assez de faire tout le temps des distinctions entre les uns et les autres, ce qu'elles avaient fait souvent très gentiment, quand elles nous parlaient et nous donnaient du tabac, s'intéressant à l'un parce qu'il était dans une banque, à l'autre parce qu'il avait une petite ferme à lui. De retour au cantonnement, je criai à tous « Ce qui vous arrête, c'est que vous croyez qu'il y en aura parmi nous qui flancheront au dernier moment. » Si vous étiez certain que demain, par exemple, tous autant que nous sommes, nous partirions comme un seul homme, eh bien, vous n'hésiteriez pas. Eh bien, c'est décidé, nous partons demain. » C'est un ultimatum, fit Robert Jacques, qui avait un faible pour ce mot. Bayancourt voulut soulever des objections. Je le priai de se taire. Je lui dis que j'irai lui parler dans un instant à lui personnellement. Je lui demandai de ne pas détruire mes efforts avant de m'avoir écouté. Dès que la lumière fut éteinte, j'allai m'asseoir au pied de son lit. Mais je ne pus lui parler parce que des camarades se plaignirent que nous faisions du bruit, ces mêmes camarades qui savaient pourtant l'importance de cette conversation. À ce moment, Pelet s'approcha de moi. Je crus qu'il venait me demander des renseignements. Il ne pensait qu'à lui. Ce qui était arrivé à Gématon l'avait beaucoup frappé. Il croyait toujours avoir les symptômes des maladies les plus graves. Je lui dis, pour me débarrasser, qu'il n'y avait pas de maladie grave sans un état d'affaiblissement progressif qui précède. Je n'en savais rien, mais j'avais trouvé un bon argument il s'en retourna à sa place, tranquillisé. Le lendemain matin, bien que nous dussions partir le soir même, j'eus la surprise de constater que tout le monde semblait l'avoir oublié. Personne ne parlait plus que les autres jours. Chacun s'habillait avec lenteur, comme si ce matin-là était un matin semblable à tous ceux passés et à venir. Comme chaque fois qu'il s'agit d'une chose qui nous est chère, je n'osais en reparler le premier. Je pris l'attitude résignée de tout le monde. Je me gardais bien de me plaindre. Cependant, la force de l'habitude faillit me faire pousser un juron, en renversant un peu du jus noir qui nous servait de café. Un peu avant le rassemblement, alors que nous nous trouvions dans la cour, je vis Katelniko parler à des prisonniers d'une chambrée du premier étage. J'eus l'impression qu'il leur annonçait que nous partions ce soir, ce qui me plongea dans une grande inquiétude. J'avais toujours insisté sur le secret le plus absolu. Tout à coup, mon inquiétude fit place à de la crainte. Chacun d'entre nous cherchait peut-être à entraîner d'autres prisonniers que je ne connaissais même pas. Au lieu de 12, nous allions être 20, 30, 40. Cela modifiait tout. Je me rappelais les paroles de Bayancourt. Déjà, je trouvais que 12 était un maximum. Dès que Katelniko eut quitté ses amis, j'allais l'interroger. « Tu ne leur as rien dit, j'espère. » Il me répondit qu'il s'en était bien gardé, que c'était eux qui voulaient se joindre à nous. J'évitai une discussion. Je ne lui fis même pas observer qu'ils ne pouvaient pas désirer se joindre à nous si on ne les avait pas mis au courant. Ma crainte ne faisait que croître. Il m'apparaissait qu'au dernier moment, ce que j'avais soigneusement préparé serait inutile. Au lieu d'agir avec méthode, d'après un plan mûrement établi, nous allions nous évader au petit bonheur la chance. C'était tout de même incroyable qu'il fût si difficile de faire comprendre aux hommes leur intérêt. Tout à coup, une pensée folle me traversa l'esprit. C'était moi qui, finalement, après avoir tout arrangé, n'oserais pas partir. À ce moment, le coup de sifflet du rassemblement se fit entendre. Au cours de la journée, j'eus l'occasion d'observer de nouveaux conciliabules entre prisonniers de différentes chambrées. Au lieu du resserrement que notre décision, une fois prise par tous, eût dû faire naître, je constatais au contraire un éparpillement de plus en plus grand. Tous mes calculs, toutes mes prévisions apparaissaient grotesques et inutiles. Le soir, quand nous fûmes réunis, je voulus reprendre la situation en main. J'avais l'impression que nous allions au-devant d'un désastre, que notre projet avait pris une ampleur telle que seules des sentinelles sourdes ne se fussent aperçues de rien.